Les chroniques du hérisson avec France Nature Environnement 1, anciennement FRAPNA. Bonjour à toutes et tous. Comme chaque troisième mardi du mois, nous abordons un sujet de la nature dans l'Ain et de l'activité de France Nature Environnement 1, anciennement la FRAPNA, l'association qui réconcilie l'humain et son environnement. Et nous reprenons sur la suite de l'émission précédente sur le sauvage avec Clémence Durochat, coprésidente de France Nature Environnement 1, qui nous guide sur le chemin du sauvage. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Vous êtes bien dans les chroniques du hérisson et nous abordons le sauvage avec Clémence Durochat, coprésidente de France Nature Environnement 1. Alors Clémence, le sauvage, est-ce que c'est différent du naturel ?
Alors, pour faire une petite reprise du coup de la dernière émission, l'idée c'était que le sauvage, c'était ce qui échappait en fait au contrôle humain, ce que nous ne maîtrisons pas. Et du coup, c'est intéressant de voir justement comment cette notion peut nous interpeller dans différentes activités humaines en fait. Par exemple, dans notre gestion de l'environnement, c'est intéressant de se dire que même en fait, les écologistes, les protecteurs de la nature peuvent s'interroger sur cette notion du sauvage. Parce que en fait, je m'en réfère à Jean-Claude Génaud qui travaille au Parc naturel régional des Vosges et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La nature malade de la gestion » et qui a beaucoup développé cette idée du sauvage et qui dit en fait on est des activistes. L'humain spontanément veut agir, intervenir.
Parce que même dans la protection de la nature, les milieux naturels, les parcs nationaux, ils sont gérés par des humains en fait. Ils ne sont pas laissés à l'état sauvage.
Voilà, ils sont gérés. On intervient. Et ça, c'est notre truc. En tant qu'humain, on a besoin d'intervenir et on est dans une temporalité qui est la nôtre. Alors, on veut qu'à l'échelle de notre vie, on ait vu ce qu'on a fait, sur quoi on est intervenu. Alors que la nature est sur le temps long. Et donc, ils ont interrogé là-bas dans les Vosges la place de l'écologie, notamment dans la gestion forestière. Quelle place laisser au sauvage, comment penser le sauvage dans des territoires entièrement façonnés par l'homme. L'idée, c'est que dès qu'on arrête de vouloir gérer la nature, en fait, la nature, elle reprend ses droits. Donc, à quel endroit, à quel moment on peut lui laisser cette possibilité de reprendre ses droits ? Donc, ils ont expérimenté différentes choses là-bas, notamment un réseau de sanctuaires de nature sur 18 hectares. Et puis, avec une démarche participative avec les enfants et les habitants, parce que l'idée, c'est pas de fermer ces lieux-là, hein, bien au contraire, mais de pouvoir y aller dans le respect et sans cette idée d'exploitation. On peut citer un autre exemple là.
Juste avant l'exemple, j'aimerais. Pourquoi l'humain il veut gérer les milieux naturels ? À quoi ça sert ?
Souvent, c'est vraiment dans une volonté de bien faire. Hein, dans le domaine de l'environnement, on va vouloir maintenir des milieux ouverts, par exemple, cette idée, parce qu'il y a une flore spécifique. Du coup, on va pas vouloir que... Alors, c'est marrant les termes, d'ailleurs, parce que dire que ça va se fermer, quelque part, c'est un terme qui est orienté, déjà. Bon, on va perdre des prairies, mais quelque part, c'est-à-dire qu'on fait renaître des espaces forestiers.
Un paysage qui se ferme, c'est quand la prairie est remplacée par la forêt.
Voilà. Et donc, on va vouloir maintenir ça parce qu'il y a peut-être une flore particulière qui est vraiment intéressante. Donc, on va vouloir la maintenir. Justement, l'idée, c'est ce que dit aussi Jean-Claude Jeannot, on ne protège pas la nature, on protège ce qu'on aime dans la nature. Et donc, ça pose la question de qu'est-ce qu'on aime dans la nature, et ça veut dire que c'est aussi nous qui jugeons de ce qui est bon ou pas bon. Et par exemple, il pose le débat sur les invasives. Alors, les invasives, nous, on lutte contre parce que justement, c'est des plantes qui vont prendre la place et qui vont concurrencer d'autres plantes.
On a par exemple l'exemple de la renouée du Japon qui vient et qui pousse au bord des rivières et qui prend la place de toutes les autres plantes.
Voilà.
C'est une plante qui vient d'ailleurs.
Voilà, elle est venue d'ailleurs, et du coup, ce que dit Jean-Claude Jeannot, c'est en même temps, elle est là. Alors, est-ce que c'est à nous de décider si elle ne doit pas être là? Et alors, il dit pour autant, il faut intervenir en amont lutter contre certaines choses, comme les OGM, comme certaines espèces importées via les jardineries. Mais bon, aujourd'hui, le coquelicot, par exemple, vient de Turquie et on est content de l'avoir. Donc, il y a des espèces comme ça qui ont pris leur place et aujourd'hui, on ne va pas revenir dessus.
Et qu'est-ce qu'on dit quand on voit que, justement, ces espèces qui viennent d'ailleurs, elles remplacent le sauvage qui existait avant et elles font disparaître des espèces?
L'idée, c'est que justement, la nature, elle fait son œuvre et elle trouve des fonctionnements et des régulations à son rythme et à sa façon, et que l'homme ne doit pas systématiquement intervenir pour rétablir des équilibres. En tout cas, ça invite à re-questionner notre façon d'agir et d'être en lien avec la nature.
On a aussi l'exemple du châtaignier qui vient en France, qui n'existait pas et qui aujourd'hui est complètement intégré dans les écosystèmes.
Oui.
Aujourd'hui, on assiste aussi à des mouvements de connexion à la nature, de l'écologie profonde, ce qu'on appelle la wilderness ou l'école de la forêt. Est-ce que le sauvage a un rôle à jouer dans nos vies, dans notre éducation, dans notre bien-être?
Oui, alors justement, ces questions-là, elles nous amènent à nous réinterroger sur notre lien à la nature. Le rapport au sauvage, c'est peut-être que pour nous aussi, le sauvage, ça correspond à une peur. Par exemple, si on fait l'expérience de dormir une nuit dans la forêt, on va se sentir vulnérable, en fait. Et ça, c'est plonger dans l'inconnu, dans l'incertitude. Ça permet d'apprendre à se connaître. Et ça, c'est quelque chose aussi qui peut nous permettre de nous remettre à notre place. Il y a d'autres choses. Par exemple, on sait qu'à notre échelle, on a envie de maîtriser les choses. Par exemple, les mauvaises herbes, entre guillemets, dans son jardin ou dans la rue, on a du mal à les accepter. On a envie de les maîtriser. Donc, c'est vrai que ça pose vraiment cette question d'une éthique dans notre rapport à la nature, de comment on arrive à avoir une relation apaisée, d'humilité, de respect, et non pas un rapport de force, une approche uniquement utilisatrice, une peur. Ça s'illustre aussi dans notre rapport aux animaux. Dans notre rapport, on peut parler des grands prédateurs. Qui sont souvent associés à cette image du sauvage.
On pense au loup, à l'ours.
Voilà, au lynx. Comment on est prêt à les laisser venir vers nous? En France, il y a tout un imaginaire du loup qui mange les humains. Et en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment une histoire en fait qu'on se raconte, et peut-être pour justement pour gérer ces peurs là qu'on a. Et alors qu'on sait que la cohabitation est possible, qu'elle se fait dans plein de pays européens, notamment en Italie, très bien parce que les hommes ont cette habitude là de cohabiter avec le loup.
Alors merci beaucoup Clémence Durocha, on arrive à la fin de l'émission. On s'arrête là, donc on voit que le sauvage peut-être est une manière de reposer notre rapport, avec la nature, mais aussi en tant qu'être humain, sur est-ce qu'on garde un contrôle ou non. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre page Facebook et sur le site FNE1 sur lequel nous mettrons une bibliographie sur le sauvage. Merci pour votre attention et rendez-vous le mois prochain. Les chroniques du hérisson avec France Nature Environnement 1, anciennement FRAPNA.